La revue de presse, bonjour Isabelle Souquet.
Bonjour.
Avec la vie et la mort, tout à la fois dans le Figaro ce matin.
Oui, la vie et la mort qui se télescopent dans deux papiers passionnants. En Belgique, un grand débat est en train de naître sur l'euthanasie demandée par ceux qui ont le sentiment d'avoir accompli leur vie. Alors ils sont pas malades, ils sont pas en fin de vie, ils ne souffrent pas le martyr, ils ne semblent avoir aucune de ces raisons de vouloir en finir. Mais eux, ils disent qu'ils sont fatigués de vivre et ils demandent l'accès à une euthanasie choisie. Une mesure qui a l'approbation de 7 Belges sur 10. Et à l'heure où de plus en plus de Français se rendent en Belgique pour avoir recours à une mort assistée, c'est peut-être une question à se poser. Est-ce qu'on pourrait avoir ce choix et exprimer dans un cadre apaisé cette dernière liberté ? Et puis vous tournez la page du Figaro et vous tombez sur la photo de l'incroyable famille de Nelly. Alors Nelly, elle est née d'un don de sperme. Adulte, elle est dévastée quand elle l'apprend, elle fait un test ADN pour en savoir un peu plus. Elle retrouve son donneur avec bonheur et pour elle, les choses se mettent un petit peu plus à leur place. Et puis l'histoire s'emballe parce que avec la mode des tests aux États-Unis, elle va retrouver au fil de l'eau 23 autres personnes avec lesquelles elle a un lien génétique. Ils sont tous issus du même donneur ou du père ou du grand-père de ce donneur. Tous les hommes d'une famille ont voulu donner leur sperme et permettre à ces femmes d'enfanter. Alors aujourd'hui, c'est une drôle de famille qui s'est recomposée autour de Nelly. Elle l'appelle la famille des graines. Une tribu qui a commencé à se rencontrer dans la vraie vie pour partager cette histoire extraordinaire. Même si, comme Nelly, les enfants disent qu'ils ont un seul papa, celui qui les a voulus et élevés.
Le niveau monte, dit le journal du dimanche, on parle là d'éducation.
Oui, c'est le niveau des élèves qui monte, c'est ce que dit en tout cas Jean-Michel Blanquer à la Une. Moi, je voudrais vous parler à propos d'éducation d'un reportage dans Témoignage chrétien sur les maisons familiales rurales. Ces établissements privés sous contrat qui ont pris à bras le corps l'éducation en milieu rural, avec en ligne de mire parfois victimes d'une mauvaise réputation, injustifiée, sauvée par le bouche à oreille. Reportage donc au fin fond de l'Orne, où on vit en internat, en plein champ et presque en communauté. Il faut aussi passer le balai, faire le petit-déj. Ce côté familial, c'est un des principes fondateurs avec la formation en alternance. Parmi les élèves du CRU, des décrocheurs ou des enfants en phobie scolaire, ils trouvent là parfois un épanouissement qui était inespéré et les résultats du bac pro sont plutôt supérieurs à la moyenne nationale.
La politique et l'économie en Chine, c'est dans M, le magazine du Monde.
Où les entreprises étrangères sont priées de se mettre au pas, bien dans la ligne du parti. Pas question de soutenir de quelque façon que ce soit les événements de Hong Kong. Pékin exige une loyauté absolue et Paribas, Dior, Mercedes en ont fait les frais quand certains de leurs employés ont affiché un soutien finalement plutôt modeste à la contestation. Convocation, menace de représailles. Devant l'énormité du marché chinois, les grandes entreprises du luxe à la française ont plié. Le sucre a lui aussi longtemps été un luxe, c'est à lire dans Cosette, cette fois Cosette qui chaque mois propose à un chercheur de raconter sa thèse sans jargonner, puis on y trouve des pépites comme dans ce numéro, la chercheuse Colline Arnaudy qui raconte comment la pâtisserie est entrée dans nos foyers. Au 19e siècle, c'était encore réservé à des très riches qui n'en consommaient que dans une collation d'après-midi. Au Second Empire, la pâtisserie est enfin entrée en boutique, spécialisée mais toujours très chic et très chère. Avant la Première Guerre, c'est encore considéré comme luxueux, inutile et paradoxalement le sucré va se généraliser grâce aux colis qui vont être envoyés aux soldats du front. On apprend aussi que la boutique de pâtisserie a peut-être été un des lieux d'émancipation féminine parce que dans les années 70, c'était un des rares lieux où les femmes pouvaient s'y rendre sans chaperon.
Et puis à la veille de la remise du prix Goncourt, vous nous parlez de la rentrée de la bibliothèque d'Oslo.
Ah oui, à Oslo, on prépare la rentrée de l'année 2114, c'est à lire encore dans le magazine du Monde. 6 romanciers dont Margaret Atwood, l'auteur de La Servante écarlate, ont accepté ce drôle de défi, écrire un livre qu'aucun de ses contemporains ne lira pour des lecteurs qui ne sont pas encore nés. Des livres qui ne seront pas publiés avant cette date, qui seront imprimés sur le papier issu des arbres qui sont en train de pousser autour de la bibliothèque. C'est assez vertigineux. Comme un moment d'enfance où on enfouissait dans les jardins des petites choses en se disant que les générations futures les trouveraient.
Autre chose dans la presse ce matin.
Une rencontre, toujours à propos de livres, dans l'Obs, où l'écrivain Jean-Paul Dubois, qui figure sur la liste des pressentis, l'écrivain peu féru de montanité et d'interview, reçoit sans façon dans sa maison de Toulouse, là où apprend-on tous les 2 ou 3 ans, il choisit le mois de mars pour écrire un roman en, tenez-vous bien, 31 jours, il y a quand même des gens qui ont un sacré talent. Et quand on lui parle de prix, il répond doucement, au moins vous savez, j'attends que ça se vérifie, c'est comme la météo. mais j'ai mon parapluie sur moi.
Merci pour cette revue de presse dominicale. La météo, le parapluie, cette tempête. Amélie d'actualité, hein, ce matin, on en reparlera dans la matinale. Isabelle Souquet, c'était la revue de presse.